Nous voulons maintenant nous centrer sur celui qui nous rassemble et qui nous permet d'être là. Et ce n'est pas des mots pour moi, parce que s'il n'y avait pas eu Jésus, s'il n'y avait pas Jésus, j'aurais sûrement jamais rencontré Christian et Annie, Laurette et Pierrot. Et tant en temps, je m'arrête pour réfléchir à ça. Toutes les choses, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, que je rencontre encore aujourd'hui, parce que Jésus est venu. Et donc, je suis très reconnaissant envers lui de toutes ces choses que j'ai pu vivre et que je continue à vivre avec vous et avec d'autres personnes. Et le texte de ce matin, de la prédication, est justement un texte, entre autres, centré sur Jésus. Il se trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, dans le deuxième chapitre, les 11 premiers versets. Je le lis dans la version Nouvelle Bible Seconde. S'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord, ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'imagine que vous connaissez déjà ce texte, parce qu'il est très connu. C'est un texte fondamental de l'Écriture, un texte qui apporte un éclairage très intense, très profond sur la personne de Jésus-Christ, sur la démarche de sa venue, la motivation qui était la sienne. Le texte est divisé en deux parties, c'est ça dit là. La première est une exhortation que Paul adresse à l'Église, une exhortation sur l'unité de la communauté, une unité qui se construit par l'humilité des membres. La seconde partie nous décrit donc le Christ qui se vide de lui-même, qui devient esclave, qui s'abaisse et qui persévère dans l'obéissance au Père jusqu'à la mort sur la croix. Cette seconde partie est donc, comme je l'ai dit avant, un des sommets de l'enseignement biblique sur Jésus. Mais dans le mouvement de notre texte, cet enseignement sur le Christ, tout important qu'il soit, est au service de la première partie. Il sert d'exemple et de fondement à l'exhortation que Paul adresse aux Philippiens. Ce que Paul souhaite, c'est que l'Église de Philippe soit une communauté unie. Ce que Jésus souhaite, c'est que les communautés d'aujourd'hui soient des communautés unies. À Strasbourg, à Lunéville, à Darnay et partout sur le globe. Alors c'est un beau programme, mais est-il possible de le réaliser, sachant qu'il y a dans les communautés? Paul développe sa pensée en quatre phases, deuxième dia. Phase 1, les ressources dont disposent les croyants pour vivre l'unité. Verset 1, une définition de l'unité au verset 2, la nécessité de l'humilité pour vivre l'unité, versets 3 et 4, et l'exemple de Jésus, donc, versets 5 à 11. Reprenons ces divers points. Les ressources pour vivre l'unité. Paul sait qu'il n'est pas facile pour les êtres humains, même devenus chrétiens, de vivre unis, d'avancer ensemble, de se mettre d'accord. Mais heureusement, la vie dans l'unité ne dépend pas seulement de nos efforts à nous. l'expérience du salut donne aux chrétiens de nombreuses bénédictions qui sont des ressources pour vivre l'unité. Paul cite ici l'encouragement en Christ, le réconfort de l'amour, la communion de l'esprit, la tendresse et la compassion. Chaque fois, il commence par « si », s'il y a quelque encouragement en Christ. Ces « si » expriment un conditionnel. Mais la question n'est pas de savoir si on a reçu ces quatre choses, mais plutôt si ces quatre choses sont actives chez les Philippiens qui ont reçu la lettre de Paul, et chez nous, évidemment, aujourd'hui, qui recevons ce texte. On les a reçues, mais est-ce qu'elles sont actives en nous? Reprenons ces quatre ressources. Il y a trois, l'encouragement en Christ. L'encouragement en Christ. Le salut nous a mis en route un jour de notre vie. Il a changé les choses. Et il continue à les changer au fil du temps. Il nous conduit sur des chemins qu'on n'avait pas imaginés. Il y a 25 ans, 26 ans, quand Christian a été baptisé, 89, Christian et Annie, ils auraient eu du mal à dire tout ce qui allait se passer en 25 ans, simplement par le fait de suivre Jésus-Christ. Et d'accepter d'entrer dans le chemin qui ont été les vôtres. L'œuvre de Jésus, donc, ont bouleversé notre vie ancienne, apporté une vie nouvelle et apporté un grand nombre de changements au fil du temps. Le salut, et on le vit très fort au début, est une puissance de vie, de changement parfois radicaux. Mais est-ce que c'est toujours le cas 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans après? Ou est-ce qu'on s'installe dans une sorte de routine spirituelle et finalement il n'y a plus grand chose de neuf qui se passe? Alors on est moins susceptible d'entrer dans la routine dans une petite église que dans une grande, il faut quand même le dire. Mais il peut y avoir une sorte de routine. Bien sûr, c'est pas possible, et c'est pas parce qu'il faudrait de vivre en permanence l'intensité qui caractérise les débuts. Parce que la foi n'est pas seulement intensité de vie, elle est aussi sagesse. Sagesse de vie. Sagesse pour inscrire la nouveauté de l'Évangile dans la réalité concrète qui est la nôtre. Et donc, après les bouleversements parfois de la conversion, il y a des périodes beaucoup plus paisibles. Et c'est assez normal. Mais cette période plus paisible peut devenir une routine où plus grand chose de neuf se passe. Et donc, Paul nous pose cette question, quand il parle d'encouragement en Christ, est-ce que nous recevons toujours des impulsions de la bonne nouvelle de Jésus aujourd'hui? Ces impulsions continuent-elles à orienter et parfois à changer, à réorienter notre vie? Deuxième ressource, la suivante, le réconfort de l'amour. Le mot grec traduit par réconfort est assez proche de celui traduit juste avant par encouragement. L'amour de Dieu manifesté en Jésus continue-t-il à nous mettre en mouvement? L'amour de Jésus manifesté par Jésus continue-t-il à nous faire vibrer et à nous faire à ce qu'on avance? Parce que l'amour est et reste la source et doit rester la source. S'il n'y a plus d'amour, il ne se passe plus grand-chose. Et dans l'Écriture, c'est l'amour reçu par Dieu quelque part entre en nous et qui se poursuit plus loin dans nos vies, dans nos relations. Parce que c'est le réconfort de l'amour, cet encouragement de l'amour, jusqu'où est-il encore présent ou pas? C'est ce que Paul pose comme question ici. Troisième ressource, la communion de l'esprit. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit, nous tous qui sommes devenus chrétiens. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous ce que Paul appelle l'unité de l'esprit dans l'Épître aux Éphésiens. Une unité fragile qui nous appartient de conserver, dit-il. Et nous sommes invités à rester dans cette communion de l'esprit. Alors, une expression comme communion de l'esprit, ça peut évoquer en nous plusieurs choses très différentes. Le Saint-Esprit nous est donné comme une force, une puissance de vie. Une force en nous qui donne du courage quand c'est difficile, qui éclaire quand nous sommes dans le brouillard, qui travaille notre être intérieur pour y faire pousser son fruit. Là où avant régnait ce que Paul appelle la chair. Ce fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi, nous est nécessaire pour vivre l'unité. La communion de l'esprit est vitale parce que je ne peux pas me transformer par moi-même, mais je peux cultiver une communion avec celui qui est capable de travailler au plus profond de moi. Vous avez déjà essayé de vous transformer par vous-même ? On arrive à donner le change quelque temps, et au bout d'un certain moment, hop, c'est comme un élastique, là on est retiré en arrière. Mais l'esprit a cette capacité, et heureusement qu'il est là, de travailler au plus profond de nous. Et je pense qu'on peut tous témoigner, nous qui sommes chrétiens depuis un certain temps, que des choses sont passées en nous. Des transformations, pas forcément très spectaculaires, mais des choses sont passées en nous. Parce que le Saint-Esprit veut travailler en nous pour faire porter son fruit dans nos vies. Cette œuvre de l'Esprit nous est présentée comme un fruit. Alors ici, c'est facile d'expliquer à les gens qui sont dans la campagne. Parce que les fruits, ils poussent lentement. N'est-ce pas ? Les fruits poussent lentement. Mais c'est aussi parce que la profondeur dans laquelle Dieu veut travailler par l'Esprit est telle qu'il faut aussi que ça se passe lentement. Parce que dès que c'est profond, ça ne peut pas aller vite. On peut changer facilement un masque, hein, changer le visage, changer le masque, comme ça. Ça peut se faire très rapidement. Mais la réalité intérieure qui est la nôtre, eh bien, elle bouge beaucoup plus lentement. Et c'est normal, et c'est une bonne chose. Parce que, encore une fois, plus on travaille en profondeur, moins ça peut aller vite. Nous avons besoin de la communion de l'esprit et du... pour transformer nos vies au fil du temps. Dernière ressource, il y a numéro 6, la tendresse et la compassion. Nous tous, nous ici, nous vivons de la tendresse et de la compassion du Christ. De la tendresse et de la compassion du Christ. Dans nos luttes, parfois nos échecs, il porte sur nous un regard compatissant et tendre. Heureusement, parce que ça nous aide à tenir bon. Avons-nous conscience de cet amour de Dieu dans nos vies, quand on se sent culpabilisé, quand on se sent minable, quand on se sent pas bien, de ce regard de tendresse et de compassion du Christ pour nous ? Il nous dit que ces choses-là, qui font partie de nos vies, hein, nos échecs, nos difficultés, ne sont pas pour lui les choses principales par lesquelles il nous regarde. Est-ce que nous recevons de manière renouvelée cette tendresse, cette compassion que Dieu a pour nous ? Est-ce que c'est comme un carburant qui nous nourrit dans notre cheminement. C'est l'amour, le vrai carburant, hein, de nos vies spirituelles. Voilà donc quatre ressources qui font partie de la bénédiction du salut, de l'expérience du salut, et que Paul souhaite être toujours à l'œuvre chez ses lecteurs du premier siècle, comme nous aujourd'hui. Ces quatre choses sont des ressources indispensables pour aller de l'avant. Ensuite vient une définition de l'unité, combler ma joie en étant bien d'accord, et il y a un même amour, une même âme, une seule pensée. Combler ma joie. Une lecture un peu rapide ou un peu moderne pourrait nous faire croire que Paul fait du chantage affectif, hein, soyez gentil pour moi, faites-moi plaisir. Mais c'est pas vraiment probablement ça dont il est question ici. C'est plutôt une manière de dire que pour lui, c'est quelque chose de très important, de prioritaire. Il y a le numéro 7, on y est déjà. Voilà, c'est celle-là. L'unité, d'abord, qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Il faut éliminer une mauvaise compréhension de ce verset. En le lisant, on pourrait avoir l'impression que Paul demande aux Philippiens d'être d'accord sur tout. Vous voyez, hein, un même amour, une même âme, une seule pensée, on pourrait avoir l'impression d'une forme d'uniformisation radicale. Mais quand on lit le reste de l'Écriture, on sait bien que c'est pas de ça. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, et notamment si on lit d'autres passages de l'apôtre Paul. Paul n'exhorte jamais à l'uniformité d'opinion et d'idées dans l'Église. Dans deux textes fameux, Romains 14, versets 1 à 15, verset 7, et Philippiens 3, 15 et 16, il est question d'opinions diverses, notamment sur le fait de manger ou non de la viande sacrifiée aux idoles. Et en fait, l'enseignement de Paul est plutôt sur la nécessité de s'accueillir dans la différence d'opinion et de trouver des chemins pour marcher ensemble sans se juger ni se mépriser à cause de ce désaccord. Il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout, mais on peut trouver des chemins pour marcher ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tout. C'est ça, en fait, l'unité dans l'Évangile. Et vous connaissez probablement ce texte de Philippiens 3, 15 et 16. On ne sait pas trop ce que sont les éventuels points de désaccord, mais Paul écrit: si donc nous sommes des gens accomplis, mûrs, tenons-nous à cette pensée, et si sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes, avançons ensemble. Si on n'est pas d'accord sur tout, ben Dieu nous montrera déjà, mais ça ne nous empêche pas d'avancer ensemble. Donc voilà, l'unité chez Paul ne va pas du tout avec l'uniformité, donc il ne faut pas comprendre notre verset 2 de cette manière-là. La suivante. L'unité que Paul promeut, c'est le fait d'être d'accord pour continuer à marcher ensemble, de se travailler pour trouver des chemins pour continuer à marcher ensemble avec nos désaccords et nos différences. En nous accueillant, si possible, pleinement, sans jugement, ni mépris, ni critique. Paul dira en Romains 14, si nous sommes en désaccord, c'est pas à nous de juger les convictions et idées de nos frères, même si elles nous surprennent. Parce que, dit Paul, celui qui jugera, c'est Dieu. Il y a des points sur lesquels on ne peut pas transiger, mais ils sont plutôt rares. Des points de doctrine, des points sur la personne et l'œuvre de salut de Dieu, en Jésus et par l'Esprit. Mais ils sont rares, ces points-là. Sinon, il y a de la place dans l'Église pour une grande variété d'opinions différentes sur des points qui ne sont pas si importants que parfois on pense qu'ils le sont. L'unité, c'est se reconnaître frères et sœurs et marcher ensemble à la suite de Jésus, en sachant que ni moi, ni ceux qui sont avec moi dans la communauté ne savent tout ou n'ont tout compris. Et donc ça laisse de la marge, si on est d'accord avec ça, ça laisse de la marge pour s'accueillir avec des opinions différentes. Comme dit l'apôtre Paul dans un texte que j'aime beaucoup, nous connaissons partiellement. Mais parfois on se dispute comme si on savait tout. Donc on a besoin d'apprendre à vivre ce côté, nous connaissons partiellement, savons partiellement les choses. Notre expérience de Dieu est partielle, et donc ça doit nous aider à nous accueillir les uns les autres. Et ça veut dire aussi, si on est dans le partiel, ça veut dire qu'on est dans une démarche où on souhaite continuer à avancer. L'unité, c'est plus facile à vivre si on avance. Ça devient plus compliqué si on n'avance pas. D'abord, si on avance en regardant Jésus, on est moins enclin à rester dans nos chaises, à se regarder les uns les autres. Et à se comparer, et à comparer les opinions, etc. Si nous sommes dans une dynamique pour avancer, en sachant tout ce qui nous reste encore à... qu'il reste encore des tas de choses à découvrir, ça nous pose beaucoup moins de difficultés d'être avec des gens qui sont comme nous, c'est-à-dire qui ont aussi des tas de choses à découvrir, et des tas de questions où on n'a pas encore les réponses, mais un jour on les aura. On continue. Pour l'apôtre Paul, ce qui fait notre unité, c'est d'abord l'œuvre de salut de Jésus, c'est ce qu'on a vu avec les quatre ressources du verset 1, mais il y a aussi quelque chose qui est de notre part à nous. Et ce qui est notre part à nous, ce n'est pas le fait d'être d'accord sur tout, mais c'est le fait d'être humble dans nos relations. Et c'est ce que Paul va expliciter au verset 3 et 4. Je peux juste survoler ce que Paul dit ici, parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Diapositive suivante. L'humilité, c'est d'abord de ne pas penser seulement individuel, mais de penser collectif. Paul n'interdit pas toute ambition dans notre passage, mais seulement l'ambition personnelle centrée sur soi. Rien n'interdit d'avoir de l'ambition pour la communauté chrétienne. Il y a suivante. L'humilité chrétienne n'a rien à voir avec le fait de se trouver nul. Ça, c'est autre chose. L'humilité consiste à se décentrer de soi et de ses intérêts pour se centrer sur l'autre. Ne pas avoir seulement mes besoins, mes envies, mes rêves, mes désirs, mais aussi être capable de prendre en compte ceux des autres. Et parfois même, à certains moments, mettre la priorité sur les autres, et pas seulement et toujours sur moi-même. J'aurais pas peint avec les mêmes couleurs cet endroit, mais est-ce que c'est une raison pour déclencher un conflit? Non, j'ai un exemple tout bête. Hein. Mais je vous préviens, il y a des églises qui se disputent pour moins que ça. Hein. On se dispute pour moins que ça dans certaines communautés. Je peux très bien dire que quelqu'un d'autre a fait, quelqu'un d'autre a choisi, c'est super, merci. Ouais, non, ouais, c'est pour ça que c'est pas si compliqué non plus, hein, ce que l'enseigne l'apôtre Paul. L'humilité, c'est aussi ça, se savoir se décentrer. Alors il y a un verset qui est un peu choquant dans le passage, c'est « Regardez les autres supérieurs à soi-même ». Ça choque toujours ce truc, hein, quand on le lit. Mais ça ne signifie pas du tout être leur carpette, mais dans la relation, leur donner toute la place qui est la leur. Et ça passe par des choses vraiment très simples, comme le fait de les écouter vraiment. Bon, il se trouve que par ma formation à la médiation, j'ai suivi des trucs sur l'écoute. Puis de temps en temps, j'écoute justement les gens, et je suis toujours frappé de voir parfois que les gens s'écoutent pas. Chacun est travaillé par le fait de placer sa propre idée, et ça l'empêche d'écouter correctement l'autre. Vous avez tous fait l'expérience de ça, j'imagine, un jour ou l'autre. Eh bien, regarder les autres supérieurs à soi-même, c'est tout bêtement déjà écouter. Écouter vraiment. Écouter vraiment et prendre en compte ce que les autres disent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais prendre en compte et prendre au sérieux et discuter, dire éventuellement qu'on n'est pas d'accord, mais prendre en compte. S'intéresser vraiment à ce que l'autre dit. Et pas seulement à ce que moi j'ai envie de dire là, maintenant. On se coupe parfois facilement la parole. On est plus intéressé de dire ce qu'on pense plutôt qu'écouter notre interlocuteur. On est parfois tellement désireux de faire passer notre idée qu'on n'écoute pas celle des autres. C'est à des choses comme ça que je pense. C'est ces choses-là que m'évoque le fait de regarder les autres supérieurs à moi-même. Bon, et des trucs basiques. Hein. Rien de miraculeux ou d'extraordinaire. Mais aussi, la dia suivante. Peut-être qu'estimer les autres supérieurs à soi-même, ça peut signifier faire plus que la moitié du chemin. Dans notre vision rationnelle des relations, on se dit si chacun fait 50%, on arrive à se rejoindre. Oui ? Mais ça ne marche pas bien. Tous ceux qui sont en couple, pour parler que de ça, savent qu'à certains moments, il faut faire plus que 50, sinon ça ne marche pas. Oui ? Il faut juste que ce ne soit pas toujours le même qui fasse plus que 50. C'est ça. Mais en fait, si on est tous dans des vagues, j'ai fait mes 50, j'attends que tu fasses tes 50, eh ben, on ne se retrouve pas souvent. Hein. Oui ? Voilà, c'est des choses très simples, mais qui sont indispensables. Et alors, je ne pensais pas le dire là, mais j'en profite. Quand on est, comme Christian, Annie, Laurette, et Pierrot, et maintenant la nouvelle génération, parmi les responsables, eh ben, faut souvent faire plus que 50. Faut pas se laisser énerver tout de suite parce que d'autres font, ou par tel problème, par telle situation. En fait, on prend sur soi, comme on dit. Hein. Ça fait partie de la responsabilité de prendre sur soi. Et alors là, on fait souvent plus que 50%. Et on vit dans la réalité qu'on estime les autres supérieurs à soi-même, dans cette dimension-là. Alors, je continue avec l'exemple de Jésus. Donc, c'est la Je l'ai dit en introduction, l'enseignement sur Jésus intervient pour soutenir et fonder l'exhortation de l'apôtre Paul qu'on vient de voir dans cette première partie de la prédication, la plus longue, je vous rassure. On va bientôt finir. Le but de Paul dans les versets 6 à 8 est de montrer comment Jésus, lui, voyait les choses. La suivante, s'il te plaît. Le dépouillement. Jésus s'est dépouillé, il s'est vidé de la gloire divine. En se faisant homme, il s'est dépouillé de tout ce qu'il distinguait des humains pour vivre parmi nous. Tout le temps qu'il était sur terre, il n'a à aucun moment utilisé la puissance divine pour se faciliter la vie. Vous voyez ? Jésus, 40 jours dans le désert, il commence à avoir faim. Et le diable lui dit, pas de souci, tu transformes ces pierres en pain, où est le problème ? Vous voyez ? La première tentation. Et bien Jésus a dit non. Parce qu'il aurait quitté le fait d'être un homme comme nous et de vivre comme un homme parent, comme nous. La suivante, donc il s'est dépouillé, premièrement. Deuxièmement, la suivante, Jésus est devenu esclave, serviteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ses choix de vie ont été faits en fonction de la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, c'était de nous sauver, nous les humains. D'accord ? C'est ça en fait, le fait qu'il était serviteur. Ses choix de vie ont été orientés par rapport à sa mission de salut. À lui, ça ne lui a pas apporté grand-chose, puisqu'il a récolté beaucoup de rejets, beaucoup de mépris et beaucoup d'incompréhension, le temps qu'il était sur terre. Très souvent, il a vécu complètement décalé, y compris par rapport à ses disciples qui ne comprenaient rien de ce qui se passait, assez régulièrement. Quand on lit les évangiles, c'est assez frappant. Ça lui a apporté des accusations mensongères, l'arrestation, les coups et pour finir la mort sur la croix. Mais c'était le chemin pour nous sauver, tout en étant juste. Dieu nous a justifiés tout en étant juste. Et cela est passé par la vie de Jésus et la mort de Jésus sur la croix. C'est ça en fait être serviteur. La suivante. Pour Jésus, il y a eu des moments difficiles, comme l'incompréhension obstinée des disciples, surtout au moment d'affronter la mort. C'est quand même quand il parle de sa mort qu'un de ses disciples s'est le plus clairement opposé à lui en disant « Non, non, pas de ça pour toi. » Vous vous rappelez, hein ? C'est Pierre qui dit ça. Mais ce qui n'a pas été difficile pour lui, c'était de manifester son amour. C'était de chercher les personnes perdues comme Zachée, par exemple. Ce qui n'a pas été difficile pour Jésus, c'est de vivre décentré. Jésus ne s'est pas senti avili d'être serviteur. Jésus ne s'est pas renié en se faisant serviteur. Parce que Jésus voit les choses très différemment de nous. Et il essaye de nous l'expliquer très souvent. Par exemple, quand il répète que les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça veut dire quoi ? Que tous ceux que nous voyons grands, puissants, forts, riches, je ne sais pas quoi d'autre, ben Dieu ne les voit pas comme ça. Et tous ceux qu'on trouve handicapés, nuls, et pas utiles à la société, pas productifs, pas ceci, pas cela, ben Dieu ne les voit pas comme ça. C'est le regard de Jésus qui était cet autre regard qui est fondamental et que Jésus essaye régulièrement d'apprendre à ses disciples. Les disciples demandent qui est le plus grand parmi nous. Et on voit déjà qu'ils montrent leurs pectoraux et leurs compétences, leurs capacités et tout et tout. Et Jésus prend un petit enfant, un petit, hein, et dit c'est lui le plus grand. Ouais, absolument, tu as raison. Tu peux lever la main, c'est exactement ça. Jésus dit le plus grand c'est celui-là. On a du mal à comprendre ça, hein. C'est choquant, on se dit. Et alors on se dit toujours, oh, c'est un jeu de mots, c'est une image, c'est pas vrai du tout pour Jésus. Son regard, et le regard de Dieu, est radicalement différent du nôtre. Lié à ça, parallèle à ça, il y a des textes qui disent que le plus grand, c'est le serviteur. N'est-ce pas ? Le plus grand, c'est le serviteur de tous. Eh bien, c'est comme ça que Dieu voit les choses. Et la preuve, comme Jésus s'est fait serviteur de tous, notre texte finira en disant que Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Vous vous rappelez de ça ? Dieu l'a élevé au-dessus de tout parce qu'il a été le serviteur de tous. Et enfin, pour montrer ça, pour qu'on le comprenne, cet enseignement, Jésus ne va pas seulement le dire, il va aussi l'exprimer en lavant les pieds des disciples. Alors c'est très intéressant parce que tant qu'il raconte ce genre d'histoire, les gens disent oui, pas de souci. Mais dès qu'il le met en pratique en lavant les pieds, ils disent oh, pas moi, pas moi, pas moi. Vous voyez ? Dès qu'il y a un geste qui manifeste la réalité concrète de l'enseignement, et nous on est très forts pour entendre des choses, et puis on les, voilà, on les enregistre et tout et tout, on les stocke quelque part, donc on est comme ses disciples, mais dès que Jésus fait un geste qui manifeste concrètement sa vision des choses, et là d'un coup on n'est plus d'accord. Un autre exemple, on est d'accord avec l'amour de Dieu et tout et tout et tout, puis d'un coup quand on... Quand on se dit, mais Jésus aime les ennemis, aime nos ennemis, qu'il nous demande d'aimer nos ennemis, qu'il aime les terroristes dont parlent nos journaux et nos radios et nos télés à longueur de journée, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le ressent, ça? Comment on le ressent? Nous avons besoin d'entrer de plus en plus dans la vision de Jésus, et notamment, par rapport à notre texte, dans la vision de ce qui est vraiment grand et vraiment important. Parce que notre regard est exactement à l'opposé du regard de Dieu. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Par exemple, on parle de la gloire de Dieu. Je ne sais pas à quoi on pense quand on chante la gloire de Dieu. Il y a des gens pour qui, quand on chante la gloire de Dieu, Dieu est une espèce de super Napoléon, de super César, d'Alexandre le Grand, enfin vous voyez, ce grand machin-là, la gloire, telle que nous on la voit, est multipliée par un, je ne sais pas combien, à l'infini. Mais ce n'est pas vrai. La gloire de Dieu, c'est de sauver les hommes. La joie de Dieu, c'est pas 100 personnes qui n'ont pas besoin de repentance, mais c'est celui qui se repent. Il y a plus de joie dans le ciel, vous vous rappelez? Et quand on dit dans le ciel, on parle de Dieu, évidemment. On ne parle pas des nuages, ni des anges. On parle de Dieu lui-même. Donc, ce changement de regard, ce regard nouveau, il est fondamental si on veut vivre dans l'unité, dans le service des uns des autres. Vivre l'Évangile, je conclue, vivre l'Évangile, la suivante, en Église, demande un déformatage et un reformatage, en profondeur. Ça s'est déjà fait dans plein de choses pour chacun d'entre nous, j'imagine, au fil du temps. Mais il a aussi besoin... Pour tout ce qui est grand, pas grand, le service, la gloire, etc., on a besoin d'un déformatage, d'un reformatage en profondeur. Nous sommes formatés, surtout aujourd'hui dans notre société, comme des individus, plus ou moins isolés. Nous sommes formatés comme étant en compétition. Dès qu'on va à l'école, petit, il y a des notes. Et parfois des classements. À partir des notes. Donc on est dans la comparaison permanente. Les meilleurs, les moins bons. Et puis on est dans la compétition pour trouver du boulot, dans le marché du travail. On vit, sans s'en rendre compte, dans une vision des choses où on est centré sur nous, sur nos propres besoins, et il faut s'en sortir le mieux possible. Et on n'est pas du tout dans une vision collective des choses. Peut-être si on a fait du foot ou d'autres activités comme le scoutisme, on a quelques notions de vie collective, mais la plupart de nos enfants n'ont pas forcément ça. C'est chacun pour sa peau. Et donc on a besoin d'un reformatage en profondeur par rapport à ça. Idée suivante. Autre conclusion, les valeurs de notre monde sont radicalement différentes de l'Évangile sur bien des points. Ce qui est considéré par nous comme grand est considéré comme petit par Dieu et inversement. Et c'est facile à dire ici, c'est plus compliqué pour que ça rentre dans notre tête, dans notre cœur. Mais c'est vraiment important. Et enfin, la dernière idée, si nous voulons progresser dans le projet communautaire de Jésus, nous avons besoin de changer radicalement notre manière de voir. Et nous pouvons, en lisant l'Évangile, en observant, en étudiant la vie de Jésus, et son message, toute sa vie et son ministère, pas seulement sa mort et sa résurrection. Voir comment Jésus est en relation, comment Jésus est serviteur, et laisser ainsi, à travers la lecture de l'Écriture, le Saint-Esprit construire une meilleure vision des choses centrée sur la personne de Jésus. Amen. Amen.